Vous écoutez RTL.
Il est 11h03, vous êtes sur RTL à la bonne heure avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Marie. Marie Guerrier qu'on retrouvera à midi naturellement pour un nouveau point sur l'actualité. Et nous nous retrouvons à la bonne heure en direct et en public sur RTL. Et avec nous un invité. Ah, quel invité? C'est notre invité fétiche. C'est Jean d'Ormesson, notre invité, que je vais présenter dans un instant. Bonjour cher Jean, merci d'être avec nous. C'est une joie de vous accueillir. Je vais vous présenter d'abord toute la petite troupe grâce à votre présence. Elle est aujourd'hui toute douceur, Joël Goron.
Bonjour
Joël.
Tout le monde.
Comme tous les jeudis, il nous montrera la marque de son maillot, Régis Maillot.
Bonjour.
Bonjour Régis.
Bonjour à
Éric
tous.
Éric Dussard se fait tout doux pour vous en fêtant dans son zapping la journée du baiser ou du câlin.
Oui, mais je vous parlerai de dinde aussi.
Ah, très bien.
Il y aura la télé-réalité et une dinde dans un avion.
Ah bon ? Une vraie dinde.
Une vraie dinde, je vous expliquerai pourquoi.
Très bien. Patrice Carmouze.
Bonjour.
Il a revisité quelques étapes de votre vie, cher Jean d'Ormesson, mais en chanson.
Et oui.
Eh oui, très bien.
Qu'est-ce qu'on chantait, hein, à cette date-là.
Et puis, eh ben, je vous présente, comment ne pas lui parler de sa mère aujourd'hui, un 21 janvier, qui, quoique catholique, refusait de se recueillir dans la chapelle du château de Saint-Fargeau en Bourgogne, rendu célèbre par le feuilleton Au plaisir de Dieu, adapté de son livre, parce que son aïeul, le pelletier de Saint-Fargeau, avait voté la mort de ce pauvre Louis XVI.
Il a
certes adoré sa mère, mais ne lui a obéi d'aucune façon. Elle qui lui prodiguait trois précieux conseils. Tout courrier mérite réponse, ne te fais pas remarquer et ne parle pas de toi. Par chance, il n'en a fait qu'à sa tête. Lui, le normalien qui ne voulait rien faire de sa vie et aura réussi à se faire aimer de tous. Plus qu'un aristocrate des lettres, il est le seigneur de l'Académie française. Plus qu'un comte, il est devenu une légende. Tant au fil des histoires délicieuses et captivantes qu'il raconte, il parvient à nous faire aimer la vie, même si ce pessimiste joyeux n'en oublie jamais la dimension tragique que par simple courtoisie, il ne daigne pas nous infliger à chaque page. Instruisant son propre procès, avec une coquetterie charmante qui ressemble à un péché d'orgueil, il nous entraîne dans la grande aventure de sa vie, où l'on croise des géants tels Aragon, Aron, Cioran, Ionesco, Cocteau, Paul Morand, François Nourricier, Lorraine Bacal, Marlène Dietrich, mais accepte de redescendre sur Terre en notre ville compagnie. Sans doute parce que ses livres, et plus encore celui qui est sorti ce mois-ci, Je dirais malgré tout que cette vie fut belle, publié chez Gallimard, est un viatique pour réenchanter notre existence. Avec nous ce matin, Jean d'Ormesson. Merci, Jean d'Ormesson.
Merci, mon cher Stéphane. Vous avez beaucoup de talent.
Oh non.
Non seulement vous avez du jugement, un très bon jugement, mais beaucoup de talent. Je dois vous dire que j'ai eu l'impression d'être accueilli par toute l'équipe avec vraiment une grande gentillesse et une ombre d'ironie.
Pourquoi ça, l'ironie ?
Plusieurs d'entre vous m'ont dit « Heureux de vous retrouver !» Évidemment, je suis comme abonné à vous.
Non, mais vous êtes abonné ici, bien sûr. Et puis, vous êtes... Vous faites partie de la race des derniers grands seigneurs. Et certains nous quittent, alors on est heureux de vous protéger.
Oui, certains nous quittent. Je pense aujourd'hui, j'ai appris il y a une demi-heure la mort d'Edmond Charleroux, qui était évidemment une amie à moi. Il y avait eu des problèmes entre elle et moi.
Ah oui ?
Il y avait eu des problèmes. Ben, elle était la femme
du temps de Defer.
De Gaston Defer, bien sûr. Ministre de François Mitterrand.
Et maire de Marseille.
Un peu attaqué Defer dans des journaux. Et je l'aimais beaucoup, on s'aimait beaucoup. Et c'est amusant, vous venez de citer le nom de Nourricier. Nourricier était un ami intime de deux personnes, d'Aragon. Aragon a démissionné du Goncourt parce que Nourricier n'avait pas obtenu le prix. Et il était ami intime d'Edmond. Je sais pas, Nourricier que j'ai connu et Aragon et Edmond. Et vous savez, sa mort d'abord m'est un chagrin. Et vous savez comme moi que les maisons d'édition se battaient pour avoir ses mémoires. Ça aurait été extraordinaire. Elle a participé au Roi Maudit avec Aragon. Elle a eu d'innombrables amis, hommes et femmes.
Et vous en fûtes.
Oui, bien sûr. Je n'étais pas intime, mais je l'aimais beaucoup. Sa mort. Bon, après Béart, après Glucksmann.
Tournier
Michel Tournier aussi, oui, cette semaine.
Après Tournier, que j'aimais beaucoup, qui était difficile hein, aussi.
Ah oui.
Ah oui, comme caractère. Vous savez, on voulait aller le voir.
Dans son presbytère de Choiseul.
Oui, et il n'y tenait pas. Il avait
un ermite.
Il avait fait dire au gros cours que c'était pas la peine qu'il se dérange.
Bon, on va vous retrouver pour parler de votre livre. Je le disais, c'est un enchantement parce que c'est vrai que vous ne niez pas que l'existence est tragique, mais vous avez cette politesse du désespoir qui fait qu'on prend tout avec une certaine légèreté qui nous aide à mieux vivre. On va en parler dans un instant avec notre invité Jean d'Ormesson.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern
à la bonne heure
sur RTL.
Alors nous sommes toujours avec Jean d'Ormesson de l'Académie française. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Vous êtes encensé par tout le monde. Vous avez des amis partout. Même Jean-Luc Mélenchon dit du bien de vous. François Hollande.
Mais moi je dis du bien de Mélenchon.
Bien sûr. François Hollande vous a remis, vous a fait grand croix de la Légion d'honneur. Et il vous a demandé d'ailleurs comment vous faisiez pour être aussi populaire. Parce qu'il aimerait. Il y a une martingale, il aimerait bien.
Écoutez, on pourrait parler de sa politique. Que je condamne absolument. Je suis un adversaire résolu de François Hollande. Mais il m'a fait un petit discours charmant, très très drôle, très amusant. En effet, ça commençait par « Je voudrais bien avoir vos recettes pour être populaire.
» Peut-être parce que vous n'avez trouvé personne qui soit à la hauteur pour dire du mal de vous.
C'est pour ça que vous faites votre procès. Bon, j'ai beaucoup d'amis, c'est vrai. Peut-être que les gens m'aiment bien parce que j'aime bien les gens. Et j'ai aussi des adversaires. Et de temps en temps, je lis des articles qui sont ou carrément hostiles ou un peu fielleux. Comme ça. Et je me disais toujours, mais on pourrait faire beaucoup mieux.
C'est un peu déçu, en fait.
Oui, il y a une sorte de déception.
Mais c'est en effet, c'est un procès. Ce livre est un procès.
Procès, exactement.
Que je fais à moi-même.
Alors, évidemment, c'est la troisième. Une sorte de troisième strophe d'un poème d'Aragon. On avait eu « C'est une chose étrange à la fin que ce monde. Un jour, je m'en irai sans avoir tout dit. Et là, eh bien, je dirais malgré tout que cette vie fut belle. » Mais je me dis, je ne veux pas réécrire Aragon, cher Jean d'Ormesson, mais tout de même, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux le mettre au conditionnel ? Je dirais à Yes.
Cher Jean d'Ormesson, ça le travaille depuis 3 semaines.
Non, mais c'est vrai.
On en parle tous les jours.
C'est vrai qu'on pourrait le dire au conditionnel.
On pourrait le dire plutôt au conditionnel.
Alors, écoutez, c'est amusant parce que j'ai reçu une lettre de Valérie Giscard d'Estaing, très très gentille, me disant tu aurais dû changer un mot, tu aurais dû mettre... pas que cette vie fut belle, mais que ma vie fut belle. Alors, il y a deux propositions.
Pour la réédition.
Non, mais par-delà la boutade, vous êtes très affirmatif. Et c'est vrai que le vers d'Aragon est très affirmatif.
C'est le vers d'Aragon qui est très affirmatif. Il est tellement beau.
Oui. Vous l'assumez, le fait que ça soit affirmatif ou... Parce que le conditionnel correspond peut-être à votre caractère.
Je dois vous dire, j'ai hésité. Puis je me suis dit, il faut être fidèle au vers d'Aragon. C'est si beau, ce poème est si beau.
En tout cas, vous avez coupé l'herbe sous le pied de vos futurs biographes. C'est-à-dire que plus personne ne pourra écrire une biographie de vous aussi bien que vous le faites vous-même. Vous racontez tout merveilleusement, votre enfance, ses voyages, la Roumanie, moi, des choses même qu'on ignorait. Pour la première fois, vous racontez ce voyage en Roumanie, votre père qui était ambassadeur en Roumanie. Vous avez été ensuite à Rio, au Brésil, donc... Pour ceux qui l'ignorent.
Je me répète beaucoup, mais il y a de temps en temps...
des inédits. Mais vous le dites, le monde n'est fait que de rencontres. Vous avez rencontré tout le monde, même Dieu, avec qui vous dialoguez à la fin du livre. Il y a plus de noms propres dans votre livre qu'il y en a dans la Bible.
J'ai fait un index à la fin. Je me suis dit, il y a trop de noms, on ne s'y retrouvera pas, alors j'ai mis un index. J'ai eu beaucoup de chance, vous savez, j'ai rencontré beaucoup de gens, en effet, et je dois beaucoup à beaucoup de gens.
Et au fond, ce qu'on découvre dans votre vie, c'est que vous rêviez de ne rien faire du tout.
Écoutez, c'est la pure vérité que je me rappelle très bien quand j'étais enfant. enfin, enfant, je m'en occupais pas beaucoup, mais quand j'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans, mon père était très attentif, j'ai beaucoup parlé de mon père, il était très attentif et il voulait que je fasse des choses. J'ai été élevé, au fond, dans une seule idée, c'est le travail. Mon père m'a appris qu'il fallait travailler. Et puis, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Et il m'a dit, tu peux faire ce que tu veux. Un peu comme Ford, vous savez. Mm-hmm. Les voitures Ford, en 1930, étaient toutes noires. Et il y avait une publicité de Ford disant, vous pouvez avoir une Ford de toutes les couleurs, à condition qu'elle soit noire. et mon père me disait, tu peux faire ce que tu veux, c'est-à-dire servir l'État. On servait l'État. Je pouvais être préfet, je pouvais être conseiller d'État, je pouvais être inspecteur des finances.
Vous aviez des capacités intellectuelles déjà.
Je ne sais pas.
Vous avez fait l'école normale.
Non, en tout cas, il n'était pas question de devenir notaire ou banquier ou peintre ou artiste. Quelle horreur.
Écrivain, pire.
Et moi, je vais vous dire, j'étais affolé, je ne voulais rien faire.
C'est fou. Et pourtant, c'est fou ce que vous en avez fait comme chose.
Et vous savez, je me suis dit, la meilleure façon de ne pas travailler ou de ne pas entrer dans le monde du travail, c'est de faire des études.
Mais oui.
Et c'est pour ça que je suis entré à Normal. Et mon père avait compris ça. Il m'avait dit, ah, mais je vois ce que tu veux faire. Tu vas faire Normal. Tu vas passer l'agrégation. C'est très difficile. Quand tu auras fini l'agrégation, tu découvriras que tu veux devenir médecin. 7 années d'études en plus. Ensuite, quand tu auras fini ta médecine, tu auras la foi et tu voudras devenir jésuite. 14 années d'études, ça te mènera jusqu'à 60 ans. Il avait désespoir.
Très bien. On retrouve tout de suite notre invité Jean d'Ormesson pour la suite d'Anna Bonheur. A tout de suite.
Vous écoutez RTL.
11h-12h30,
à la bonne heure,
Stéphane Bern sur RTL.
Et ce matin sur RTL, nous avons la chance de recevoir Jean d'Ormesson de l'Académie française pour son fabuleux nouveau livre, Je dirais malgré tout que cette vie fut belle, chez Gallimard. Mais c'est le moment de retrouver la marque du maillot de Régis Maillot.
À la bonne heure, la marque du maillot.
Alors Régis.
On commence par un courrier. Nordine Morano nous écrit de Béziers. Bonjour Nordine. J'ai appris que Manuel Valls était à Davos. Qu'est-ce qu'il va bien faire en Grèce ?
Non.
Contrairement à son assonance, Nordine, Davos, ça sonne grec, mais ça compte en Suisse. Et oui, Davos est le nom de la très huppée station de ski suisse où se tient le encore plus huppée Forum économique mondial, appelé parfois le club des riches. Si vous voulez, Davos est le seul dîner de cons où on se moque de nous alors qu'on n'est même pas invité. Rassurez-vous, on paie tout de même l'addition. Allez, passons plutôt au dossier du jour. Stéphane.
Moi, je ne suis pas un dossier.
Non, il ne s'agit pas de vous. Est-ce que vous pouvez être auto-centré tout de même?
Non, mais vous me dites...
Je vous apostrophe. C'est fou. Je sais, cher Stéphane, pardon, que le 21 janvier est une date sombre dans votre agenda mémoriel, puisque c'est un 21 janvier qu'un certain Louis XVI, réputé pour ne pas avoir la tête sur les épaules, a défié les lois de la physique, puisque d'après le compte-rendu journalier de Jean Firmin Lasserrure, son valet de chambre... Deux points, j'ouvre les guillemets. Le roi s'est réveillé la tête dans le derrière et s'est couché la tête dans le sac. Louis XVI a dû se séparer de la partie la moins irriguée de son corps.
C'est pas vrai.
Confirmant cet adage républicain comme quoi un monarque sans tête pouvait difficilement régner sur un royaume sans culotte. Merci de ne pas applaudir. Mais loin de nous ces vieilles querelles d'un temps que les moins de 200 ans ne peuvent pas connaître. La monarchie. J'imite mal. Aujourd'hui, le 21 janvier a trouvé une nouvelle raison d'être. En effet, au chapitre crétinerie calendaire, mieux que la journée de la gentillesse et la journée du bonheur réunis, la bien-pensance mielleuse nous a inventé la journée internationale des câlins.
Oh ! C'est pas vrai.
Exactement, Joël Goron. La journée des câlins. Déjà, le nom donne envie de coller des baffes. La journée des câlins. À quand la journée de la tarte dans la tronche ? La quinzaine du coup de boule. Les 48 heures de la levrette claquée. Passons.
Alors pour c'est le hug day.
Pour ceux qui ne connaissent pas, la journée du câlin, c'est un produit dérivé américain, le fameux hug day. Le hug, c'est cette manière, si vous voulez, affligeante qu'ont les Américains de s'étreindre de façon désexuée pour se réconforter. Tout est prétexte chez les Américains du hug. Suffit d'allumer sa télé, tomber sur une série américaine. Oh ma chérie, tu n'as pas de cavalier pour le bal de fin d'année. Viens faire un hug à maman.
Oh mon chéri, tu n'as pas d'armes pour aller à l'école. Viens faire un hug à tonton Duke. Oh mon amour, c'est terrible. Des extraterrestres se sont introduits dans les égouts de New York, vont faire exploser une bombe nucléaire qui va tuer l'humanité. Mais avant tout, faisons-nous un petit hug. Voilà, c'est américain. Voilà. Arrêtons.
Une accolade, en fait.
Une accolade. La traduction française était alors, à l'époque, je crois. C'est une pratique de 27 ans imaginée par un révérend américain, d'ailleurs, un peu tactile, il paraît. Ce révérend américain du Michigan avait constaté que les gens avaient tendance à déprimer entre Noël et la Saint-Valentin. Tu m'étonnes, vous avez déjà été dans le Michigan. Moi, oui, il faut avoir une belle vie intérieure. Le Michigan et l'État américain, on recense le plus de viols de chèvres. Alors, pour remonter le moral de ses ouailles et pour pouvoir enfin manger du fromage de chèvre sans arrière-pensée, le pasteur avait donc eu l'idée d'instaurer une journée où tous les fidèles donneraient des câlins. 27 ans plus tard, la journée du hug se pratique partout dans le monde. Quant au révérend, il est encore sous le coup de 18 procédures juridiques suite aux grossesses du groupe des jeunes paroissiennes. Alors évidemment, vous allez me poser la question, pourquoi une journée du câlin ? Bah d'une, parce que c'est plus discret qu'une petite gâterie. Secondo, un câlin, ça fait du bien. Et oui, c'est scientifique, le câlin est bon pour le moral, mais pour la santé, il y a une étude, tout ça est vrai, a été publiée sur le sujet. Saviez-vous que 10 secondes d'étreinte suffiraient pour réduire le risque d'hypertension ? Eh bien, moi je dis vivement qu'une étude nous apprenne que la fellation, c'est bon pour le cholestérol, la bagatelle favorise la circulation et que le cunnilingus élimine l'hypertension, qu'on puisse mettre à jour plus rapidement possible le calendrier des pompiers. À la bonne heure.
Ah non, vous êtes impayable. C'est Régis
Ces études existent déjà.
Ouais. Oui, il y a des études.
On va en parler.
Non, on paye des gens à faire des études incroyables.
Vous écoutez RTL.
11h-12h30.
À la bonne heure.
Stéphane Bern sur RTL.
Et nous avons la chance ce matin d'être en direct avec Jean d'Ormesson de l'Académie française. Alors, on trouve quand même des anecdotes tordantes dans votre livre. C'est hilarant. Vous racontez des choses qui se passent à l'Académie, notamment quand Marguerite Yourcenar, vous avez beaucoup fait pour qu'elle rentre à l'Académie. Et il y avait.
Je n'ai pas beaucoup fait. J'ai fait tout.
Vous avez tout fait pour qu'elle entre à l'Académie, y compris vous vouliez mettre des toilettes. Pour les hommes,
c'est drôle,
et
oui.
Sur la porte des toilettes, Marguerite Yourcenar pour les dames. Oui. Et puis il y a par exemple dans les souvenirs, page 62, vous racontez qu'un soir vous retrouvez à Ouarzazate avec votre neveu, votre vrai neveu. Il est tard, vous demandez une chambre d'hôtel. Et qu'est-ce que vous dit le patron ?
Le patron me dit, est-ce que vous avez une chambre pour mon neveu et moi ? Il dit, mais oui, monsieur d'Ormesson, bien sûr. Nous avons déjà reçu monsieur André Gide avec son neveu.
Ce n'était pas le même genre de neveu.
Vous savez, il y avait beaucoup d'histoires sur Gide. Oui. Gide est avec un de ses neveux et il rencontre... Un autre de ses amis présente l'un à l'autre et l'ancien dit au nouveau « L'année dernière, c'était moi qui étais son neveu. »
Alors, ce qui est nouveau aussi, parce que j'ai cherché ce qui était inédit et vraiment formidable dans ce livre, c'est vous parlez de votre épouse, Françoise, fille de Ferdinand Béguin. Et là aussi, il y a une chose drôle, c'est que votre frère Henri déconseille à votre beau-père de laisser... sa fille vous épouser oui. En disant ah non, pourquoi il n'est pas malhonnête, non il n'est pas malhonnête, il répond non, il est d'une légèreté effrayante.
Écoutez, c'est vrai, mon frère qui était très très rigoureux comme mon père et qui m'aimait beaucoup avait été voir mon futur beau-père en lui disant je vous déconseille de prendre. Et alors mon beau-père qui avait une certaine fortune, a tout de suite pensé, a dit qu'il n'est pas honnête. Enfin, il est parfaitement honnête, il joue, il est malade. Non, pas du tout, mais alors, il est d'une légèreté.
Qui est quand même une qualité absolument, on comprend pour un défaut, et qui est une qualité magnifique. Moi, en lisant votre livre, il y a un truc qui m'a frappée. Il y a une phrase, pour moi, qui résume totalement ce qu'on devrait tous avoir en tête. Vous dites, je me souviens du passé avec désinvolture, je prépare l'avenir avec une sorte de nonchalance, je ne vis que dans le présent. Je trouve que c'est la plus belle chose qu'on puisse appliquer quand on, quand on en a les capacités. Parce que c'est pas dû à tout le monde d'avoir justement en essence à la fois et le talent et cette légèreté de voir la vie d'une façon aussi intelligente.
Alors, je vais vous dire, c'est vrai, en tout cas, je n'ai jamais pensé faire une carrière. Je ne me suis jamais dit, il faut que je fasse ça pour arriver à ça. Jamais.
Vous a proposé, il a été question un moment, plusieurs fois, d'un poste ministre de la Culture, oui. Par exemple. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça?
Oui, c'est vrai. Enfin, on ne me l'a jamais proposé.
Est-ce que vous auriez aimé? Vous auriez su résister à ça?
J'aurais détesté ça. J'aurais été un ministre exécrable. Y a beaucoup d'aspects de la culture que je connais.
Bah depuis, certains ont fait mieux, quand même.
Je vois qu'on a Fleur Pellerin en ce moment, hein, quand même.
Vous connaissez Rodiano, en fait, non?
Vous avez Rodiano, oui. Vous auriez pu résister à cet honneur?
Mais il l'a résisté.
Pardon?
Vous avez résisté à cet honneur?
Sans aucune peine. Je n'ai jamais pensé faire de la politique. Jamais. Et vous savez, pour une raison très simple, c'est que être un homme politique, ça consiste à dire « j'ai raison et les autres ont tort ». Eh bien, c'est une attitude qui m'est très, très étrangère. Dès que je suis en face d'un adversaire, politique ou intellectuel, j'ai toujours tendance à croire que c'est lui qui a raison. C'est un très, très mauvais pour faire la
politique. Mais oui, bien sûr. Mais oui. Oui. Vous adoptez les idées des autres.
Pour l'intelligence. Oui, j'adopte très volontiers les idées des autres.
En même temps, vous avez des vraies convictions. Vous avez été le patron du Figaro.
Bien sûr,
Et alors, on va en parler justement de ce Figaro, parce que vous avez quand même réussi à devenir directeur de ce journal, après avoir quand même écrit à propos d'un livre de Pierre Brisson, le célèbre prédécesseur. Il y a tout de même une justice. On ne peut pas être à la fois directeur du Figaro et avoir du talent. C'est vous qui l'avez écrit.
J'ai écrit ça et mes premiers livres, on n'en parlait jamais dans le Figaro parce que j'étais sur la liste noire du Figaro. Et quand je suis parvenu à devenir directeur du Figaro, je n'y pensais même pas. C'est Jean Prouveau on parlait un peu de moi parce que j'étais un jeune académicien. Enfin, jeune entre guillemets, j'avais quand même 47 ans.
47 ans, hein,
si jeune. Et donc, il m'a bombardé directeur. Et j'ai été élu par les.
Avec l'appui de Raymond Aron, qui a fait votre campagne en disant votez pour lui, il a des opinions très fermes mais assez vagues. C'est très commode. Et il paraît qu'il avait ajouté. Il est d'une ignorance encyclopédique.
C'est vrai. Il trouvait que je ne savais rien. Il savait tout. Aron savait tout. Comme Lambron aujourd'hui. Il sait tout, Lambron.
Mais vous aussi, vous
non,
savez.
Non, moi je ne sais rien du tout.
Je jure que si, relativement, comparé à d'autres.
Alors, je vous assure, c'est vrai.
On va retrouver Jean d'Ormesson dans un court instant pour la suite d'À la bonne heure, avec joie et plaisir.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern,
à la bonne heure,
sur RTL.
Et on retrouve tout de suite Jean d'Ormesson dans À la bonne heure. J'en profite pour vous dire qu'hier, vous savez, j'ai... à propos des enfoirés qui ont investi la scène, enfin qui investissent la scène de l'Accord Hôtel Arena. C'est difficile de dire ce titre alors que
on
ça s'appelait
Merci autrefois.
Merci, voilà. Jusqu'au 25 janvier avec Louane, Véronique Dicker, Kenji Girac ou encore Soprano. Eh bien, nous avons un auditeur qui a retweeté la photo que nous avons mise sur le compte Twitter de La Bonne Heure et ces deux places iront donc à Adrien Rialo. Qui a été le plus rapide. Voilà, profitez bien de votre soirée avec RTL, évidemment. Alors, Jean d'Ormesson, on a encore évidemment plein de questions à vous poser. Il y a cette académie, c'est vrai que vous êtes jeune académicien, vous avez échoué quand même avec les deux A.
Oui.
Avec Aragon et Aron.
Oui, je voulais faire entrer Aragon et Aron. Je me rappelle qu'Aragon m'avait dit un soir, à un dîner, il m'avait dit, il me tutoyait, moi je le voyais évidemment, il m'a dit, tu sais, je suis snob. Je lui avais dit, vous êtes snob, venez à l'Académie. Il venait de démissionner de l'Académie Goncourt. Et je me suis dit, on pourrait la voir, l'Académie. Et j'ai été à l'Académie, on m'a dit qu'il fasse ses visites et qu'il écrive sa lettre de candidature. Vous voyez Aragon faisant ses visites. J'ai dit, mais il faut lui déployer un tapis rouge. Et c'est le cas de
le dire.
Et le supplier de venir. Et vous vous rendez compte, si Aragon était venu, homosexuel, communiste, surréaliste, l'image de l'Académie était changée.
Oui.
C'est vraiment dommage. Oui. Et Aron, c'était autre chose. Aron ne voulait pas venir à l'Académie, et puis il a vieilli. Et il m'a dit, écoutez, je veux bien venir, mais je ne veux pas être battu. Je lui ai dit, mais Victor Hugo a été battu 4 fois.
Zola a été battu
15 fois. Ça m'est égal, je ne veux pas être battu. Et puis je suis revenu et je lui ai dit, faut pas que vous veniez pour 5 raisons. La première, c'est que vous avez contre vous les antisémites. Il y avait encore quelques antisémites à l'Académie. Vous avez contre vous les juifs qui trouvent que ça va bien comme ça, il n'en faut pas trop. Vous avez contre vous les anti-gaullistes. Il y avait encore quelques pétinistes.
Ah oui.
Oui, qui étaient des gens très sympathiques. Jean Guiton, Missler, Michel Mort, que j'aimais beaucoup. Enfin, il préfère le maréchal ou général, sûrement. Vous avez contre vous avez contre vous les anti-gaullistes. Vous avez contre vous les gaullistes.
Exact.
Enfin, tout ça, on peut les dominer. Mais il y a une 5e catégorie qui est mortelle pour vous. C'est tous ceux, ils sont nombreux, à qui vous avez fait comprendre un jour ou l'autre que vous étiez plus intelligent qu'eux. Vous savez, il était très orgueilleux et très conscient de sa supériorité.
C'est votre supériorité sur lui. C'est que vous faites toujours croire à votre interlocuteur qu'il est plus intelligent que vous.
Mon cher Stéphane, je suis idiot.
Mais non.
On a même écrit, il y a eu un article dans l'Express, pas très aimable, disant cette fausse modestie est suspecte. Fausse modestie? Vous voulez que je vous raconte? J'ai une minute pour raconter une histoire. Elle remonte à avant-hier. Elle ne peut pas être dans le livre. Elle remonte à avant-hier. Je suis invité l'autre jour chez Ruquier. On n'est pas couché. Et la veille, c'était samedi dernier, la veille, une des dames organisatrices me téléphone. Je vous aimable, on est content de vous avoir. Je vous signale, elle me téléphone, je vous signale que l'ambassadeur du Népal sera là. Ah, très bien, je dis, toujours poli, je dis saluer l'ambassadeur de ma part. Et je vais chez Gallimard pour partir chez Ruquier le lendemain. Et on me dit chez Gallimard, vous savez la nouvelle? Je dis, quelle nouvelle? Vous savez qui y aura ce soir chez Ruquier? Je dis, écoutez, on m'a dit que c'est l'ambassadeur du Népal. On me dit, l'ambassadeur du Népal? Mais c'est Manuel Valls. Je suis sourd. Et j'avais entendu au téléphone, elle m'avait dit, c'est l'ambassadeur du Népal, c'était Valls. C'était Emmanuel Valls. Elle m'a dit après, ça m'a étonné, parce que vous m'avez dit, saluez l'ambassadeur de ma part. Alors, elle a bredouillé quelque chose.
Ah, c'est ça. Quand vous parliez d'enfumage, vous pensiez à l'ambassadeur du Népal.
C'est pour ça que vous
lui avez dit qu'il s'était droitisé, l'ambassadeur du Népal.
Voilà. C'est pas une preuve de bêtise, preuve que vous entendez pas bien.
Libérez Katmandou, enfin.
Là, je vous entends, mais quand il y a de la musique, vous savez, les animateurs, quelquefois, parlent avec la musique. J'entends rien. Et alors, on me dit que quoi, vous avez été tellement drôle. Oui, bien sûr, j'ai été drôle. Je n'avais pas entendu la question. Alors, je réponds n'importe quoi. Et les gens disent, comme il est spirituel.
Quel sens du décalage.
Je vais adopter votre attitude à l'avenir.
Vous écoutez RTL.
RTL,
à la bonne heure,
Stéphane Bern.
Et oui, nous sommes toujours avec Jean d'Orbesson. J'ai oublié de vous dire que Régis Maillot est un citoyen engagé. Il est sur la nouvelle scène SENE, évidemment, c'est sur la scène carrément. C'est face au quai de Montebello, dans le 5e arrondissement de Paris. Et oui,
en bas de notre
nec mergiture, il ne coule pas. Vous êtes sûr que il est à flot. Voilà.
Je serai aussi à Lyon pour nos auditeurs de province.
À Salle Rameau. Oui, je m'en souviens.
Que j'aime beaucoup.
C'est le moment des rumeurs du net.
Les rumeurs du net.
Il paraît, cher Jean, que la Bibliothèque nationale vous a demandé les manuscrits de vos romans, mais comme vous êtes un petit peu désordonné, vous ne les avez même pas retrouvés.
Écoutez, c'est absolument vrai.
Eh oui.
C'est absolument vrai. J'ai beaucoup de confrères, vous savez, qui gardent précieusement. Ouais. Je ne sais pas où sont les manuscrits. Ils doivent être quelque part, mais je ne sais pas où. Et de toute façon, je les écris au crayon. Oui. Donc ça doit être un peu effacé. Oui. Vous connaissez l'histoire de Malraux. Malraux donne le manuscrit de la condition humaine à la Bibliothèque nationale. Et deux mois après, il reçoit une offre de l'université de Princeton ou du congrès américain qui lui propose une somme considérable pour son manuscrit. Qu'est-ce qu'il fait ?
Il l'a réécrit ?
Oui, il l'a réécrit.
Oui, génial.
Il y a deux manuscrits. Oui. Et alors, bah, naturellement, oui. Les deuxièmes, les ratures, oui. Il se souvient pas. Il les met un peu n'importe où.
Oui, non, mais quelqu'un, c'est drôle.
Bah, oui, c'est génial. Mal, ouais.
On peut le voir plusieurs fois. Comme oui. Ça, c'est
alors, pratique. Vous êtes né à Paris, mais vous avez longtemps fait croire que vous étiez né dans l'Orient Express.
Oui, oui. J'étais, vous savez,
c'est romanesque.
Je suis très européen, je suis très content d'être français, mais je me sens plus européen que français. Peut-être, c'est curieux, ce côté gauchiste, je me sens peut-être plus citoyen du monde qu'européen. Je pense que je suis européen, pas par nationalisme européen, mais pour essayer de préparer une espèce de gouvernement mondial auquel je crois, peut-être seulement dans 300, 400, 500 ans. Et donc, j'avais essayé de faire croire que j'étais né dans l'Orient Express, ça me paraissait bien, ou à Rumeli-Hisar. Rumeli-Hisar, c'est une tour qui est en Turquie et qui est très belle.
Mais vous êtes binational, vous aussi ?
Je suis binational.
Oui. Pour combien de temps
coup, je suis binational.
Il peut être déchu. Ouais. Vous pouvez être déchu, attention.
Il y a pas trop de risques quand même. Hein.
Faites attention. Hein.
J'ai été. Oui, il faut faire attention.
Vous avez deux passeports.
J'ai un passeport libanais. J'avais été au Liban avec Guy Béard, qui avait fait une chanson libre, Liban, Liban, libre, au moment où il y avait quelques bombes syriennes qui tombaient sur le Liban. Et pour me remercier, Béard et moi, nous avons été faits citoyens libanais.
Et il paraît que quand François Mitterrand vous a téléphoné, parce que le dernier jour de son mandat, il voulait s'entretenir de 9h à 11h avec vous, avant de céder les clés de la maison à Jacques Chirac, et vous avez cru à une blague, vous avez cru que c'était Jean Dutour.
Oui, je me suis dit, c'est Jean Dutour. Jean Dutour faisait des blagues, vous savez. Quand j'étais directeur du Figaro, le lendemain de mon arrivée, l'huissier me tend une carte qui avait été visiblement bricolée à la gare Saint-Lazare, vous savez, avec écrit dessus « Madame Caillot ».
Qui avait assassiné
Calmet. Et alors, je lui ai fait entrer cette dame, c'était Jean Dutour, déguisé avec un chapeau de femme et un bois, et il m'a vidé
un pistolet à eau
sur le nez. Et donc, je me suis dit, c'est Dutour qui imite la voix de
Mitterrand.
J'ai reconnu la voix de Mitterrand et il m'a dit, est-ce que vous viendriez me voir ? J'ai dit, mais quand vous voulez ? Il m'a dit, après-demain. J'ai dit, vous ne pouvez pas vous remettre vos pouvoirs, Chirac. J'ai remis à 11h, si vous veniez à 9h, nous aurions deux bonnes heures devant nous.
Et voilà. Bon, j'ai à peine le temps parce qu'il s'impatiente. Il y a Éric Dussard qui veut vous faire descendre. Non, non, c'est nous.
La culture, place à la culture.
Il veut nous faire descendre de quelques marches. On va retrouver la télé d'Éric Dussard.
Vous écoutez RTL. À la bonne heure. Éric Dussard met la télé sur écoute.
Éric, parce qu'on est, avec Jean d'Ormesson toujours, et on parlait d'un feuilleton qui a très bien marché, au plaisir de Dieu.
Ah, vous ne parliez pas de Friends Trip sur Énergie 12.
C'est quoi Friends Trip?
Ce sont les rois du buzz. Les rois des buzz, surtout. Hein, sont les candidats donc, de cette émission de télé-réalité sur Énergie 12, experts en buzz médiatique, mais manifestement pas experts, en revanche, en buzz Aldrin.
L'astronaute Buzz Aldrin, c'est le deuxième homme à avoir marché sur la Lune.
Mais c'est quoi Buzz Aldrin ?
Je sais pas c'est quoi.
Buzz l'éclair ?
Buzz Aldrin.
C'est quoi Aldrin ?
C'est quoi un Aldrin ?
C'est un buzzer. Ouais.
Un champignon.
Buzz Aldrin. C'est ça. Inconnu au bataillon. On doit deviner le nom d'un marcheur de lune, là, mais n'importe quoi.
Un marcheur de lune. Attends, la pauvre, elle se souvient déjà plus du nom du premier homme à avoir marché sur sa lune, donc évidemment, comment voulez-vous qu'elle connaisse Buzz Aldrin, qui est donc, on le rappelle, le deuxième homme à avoir marché sur la lune, juste après Armstrong, dont cette candidate de Secret Story va tout de suite nous rappeler le prénom.
Nadège.
Oui.
Comment se prénommait Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune?
Louis.
Bah oui, exactement. Bien sûr. Il avait débarqué sur la Lune avec sa trompette et puis il a joué Fly Me to the Moon.
Fly Me to the Moon.
C'était un grand moment.
Lance Armstrong.
Ah bah, sans problème, en vélo, il y va lui en deux minutes hein, avec son petit potage du matin. Mm. Bon, revenons à nos candidats de Friends Trip, qui est en fait une vraie émission d'aventure, parce qu'au-delà des aventures qu'ils ont entre eux, on leur demande aussi parfois de se soumettre à des épreuves extrêmement périlleuses. Par exemple, cette semaine, ils ont dû braver leur peur. On leur a demandé, figurez-vous, de faire du tricot.
Côté Team Ricardo, on avale les kilomètres, mais le tricot, lui, n'avance pas.
C'est trop galère, c'est trop long, c'est trop, quoi. Oh, deux baguettes, moi j'utilise la baguette, c'est pour manger le riz, et encore, je galère.
Alors ça, on imagine bien que tu galères si tu manges ton riz avec des aiguilles à tricoter. En plus, c'est que c'est assez dangereux, un faux mouvement, et hop, elle finira embrochée comme un poulet. D'ailleurs, je vous le disais, en parlant de poulet, êtes-vous au courant que maintenant, vous pouvez voyager en avion avec votre dinde préférée? Oui, c'est autorisé en cabine, la preuve avec cette histoire rapportée par les infos d'M6.
Cette dinde à bord d'un avion rejoint la longue liste des animaux stars de la toile. En vertu d'une loi antidiscrimination, la compagnie américaine Delta Airlines a dû fournir un siège à l'oiseau. La raison, un certificat médical fourni par son propriétaire, a fait de ce gallinacé son animal de soutien émotionnel. Un cas similaire s'était présenté avec un cochon sur un autre appareil, mais face à la puanteur de l'animal, il avait été débarqué.
Oui, puis il avait fait un scandale quand on lui avait servi du jambon dans le plateau repas, en plus le cochon, ça s'était très mal passé, il n'avait pas bien pris.
Il faut dire que même les gros chiens, maintenant, si vous avez un certificat de soutien émotionnel aux États-Unis, vous pouvez voyager en cabine avec votre animal.
Moi, c'est un facochère et je l'ai installé à côté de moi. L'autre jour, il avait sa coupe de champagne.
Soutien émotionnel. C'est-à-dire qu'un psychiatre vous délivre un certificat comme quoi vous ne pouvez pas vous séparer de votre animal.
C'est gênant, c'est un
élément. Ta femme, tu peux.
Non, je vous parle d'un animal. Je sais que c'est toi. J'ai des amis, par exemple, américains qui
voyagent avec son chien et mettre sa femme en soute.
Joël, vous pouvez voyager avec une femme. Hein.
On s'offre quelques pâtisseries maintenant.
Oui, avec un succulent documentaire sur sujet sur France 5. Succulent parce qu'il était truffé d'infos. Pas succulent en revanche s'agissant de la provenance de nombreux produits que l'on achète en boulangerie.
Selon les fédérations professionnelles, aujourd'hui, plus de 20% des pâtisseries vendues en France sont issues de l'industrie. Plus de 30% du pain, un pourcentage qui monte jusqu'à 75% pour les viennoiseries qui seraient d'origine industrielle. Des chiffres accablants dont le consommateur est la première victime.
Il y a un certain nombre de chiffres qui circulent et sur l'ensemble de la France, on dit que grosso modo, un croissant sur deux ne serait pas fabriqué dans la boulangerie.
Eh oui, un croissant sur deux serait d'origine industrielle, même en boulangerie. Donc payé au prix du fait maison. Il y en a qui font leur beurre justement. Daniel Moreau qui est en train de manger toutes les viennoiseries n'est pas bien du coup. Ouais, non, ça va aller Daniel, vous inquiétez pas. À mon avis, pour arrêter ce phénomène, ça va être compliqué. Justement, on a du pain sur la planche comme on dit. Ou, comme dirait monsieur chez Jean-Luc Reichmann,
selon l'expression, sur quoi a-t-on du pain quand on a beaucoup de travail?
Pain sur du beurre.
Je te laisse, franchement, j'ai du pain sur du beurre. J'ai du pain sur du beurre, je dois y aller. Je suis désolé.
Et on termine avec une nouveauté sur France 5.
Oui, ce soir, 20h35, un nouveau programme court où Jean Rochefort raconte de grands classiques de la littérature, mais en langage jeunes. Vous vous souvenez, ça avait cartonné sur Internet l'an dernier. Ça arrive ce soir sur France 5, avec, pour commencer, la nouvelle version du Petit Prince, dont voici un petit extrait.
C'est un beau gosse, aviateur, qui se crache dans le désert torride du Sahara. Il essaie de faire son MacGyver avec trois allumettes et un rouleau de PQ pour réparer sa carlingue. Ça marche pas du tout. Alors il tape la pose comme un bolos. Et le lendemain, un petit com lui dit tout de go, « Dessine-moi un mouton gros. » OK. Il tatane des moutons façon Botticelli ou Picasso, mais le petit com, il dit, « Ah, c'est de la merde, ça, mon frère. T'es aussi doué que ma tobe. »
C'est frais, comme disent les jeunes. 20h35 sur France 5, Jean Rochefort.
Merci beaucoup, Éric Dussard. On vous retrouve demain. Et on va retrouver Jean d'Ormesson dans un court instant pour continuer à parler de son livre « Je dirais malgré tout que cette vie fut belle ». C'est normal, c'est publié chez Gallibard, en tête des ventes de livres. À tout de suite. RTL, il est midi.
Vous écoutez RTL.
Il est midi 4, vous êtes sur RTL. C'est la suite de La Bonne Heure, bien sûr, avec Stéphane Bern.
Oui, absolument. Nous sommes là, Marie-Guerre. Ferrier, toujours en compagnie de Jean d'Ormesson de l'Académie française. Pour Je dirais malgré tout que cette vie fut belle chez Gallimard, nous avons une petite agréable intrusion, celle de Vincent Parisot qui va
bonjour Stéphane.
Midi et demi, RTL Midi avec Christelle Robillard. Quels sont vos sujets?
Les trois sujets maintenant, j'ai l'habitude, c'est ce que vous. L'état d'urgence, une petite phrase qui enflamme la gauche. Et puis les faux diplômes. Alors, l'état d'urgence, vous l'avez compris, c'est la possibilité de le poursuivre après le 26 février, comme le souhaite François Hollande. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous, on en parlera avec un député socialiste, lui, qui est favorable à cette prolongation, alors que la Ligue des droits de l'homme vient de saisir le Conseil d'État, justement, pour faire suspendre cet état d'urgence. On attend votre avis au 32-10. Je sais qu'on va avoir beaucoup de monde au 32-10 pour réagir à la petite phrase d'Emmanuel Macron. La vie d'un entrepreneur est bien souvent plus dure que celle d'un salarié. Il ne faut jamais l'oublier, dit Emmanuel Macron. Le patron, lui, il peut tout perdre, il a moins de garanties.
On parle évidemment des petits patrons, de ceux qui ont quelques.
Mais oui,
c'est ça dans
qui
son
ont mis leur argent, bien sûr.
Patrons, en général,
ils sont salariés eux-mêmes. Salariés. Groupes,
du coup, on en profite pour vous demander si Emmanuel Macron est de gauche. Vous nous dites non, assez largement pour l'instant, mais vous pouvez continuer à voter sur RTL.fr.
Alain Madelin non plus.
Macron a voté, même.
Et puis, on vous attend notamment si vous êtes petit patron ou salarié. Et puis, les faux diplômes.
Les faux diplômes.
Mais oui, les faux diplômes. Oui, parce que Nadjad Vallaud-Belkacem annonce la création d'un site internet dédié à la traque des faux diplômes. Savez-vous
pas, c'est pas sympa pour Rachida Dati.
Dans les CV, parce qu'il y a déjà des sociétés qui épluchent les CV, il y a 8% de faux diplômes.
Sans rien. Enfin,
beaucoup, presque. 8%, c'est quand même très important. Et donc, il va y avoir un site qui va permettre aux entreprises de vérifier gratuitement que lorsqu'on dit qu'on a fait HEC ou autre...
Jean d'Ormesson est vraiment agrégé.
On ira le vérifier.
Je me demande.
Mais vous savez, il y a des vrais diplômes qui apportent des fausses compétences. Hein. Je connais des gens qui ont fait l'ENA.
Bon, voilà.
Jean. Vous connaissez Édouard Baer.
Bien sûr, qui était notre invité hier et qui vous salue.
Il est merveilleux. Oui. Et son père était un grand ami à moi et il m'avait dit, quand j'avais été reçu à Normal, il avait dit « Oh, tu n'as pas été reçu par faveur. Non, tu as été reçu par erreur.
» Bon, et puis s'il y a des auditeurs qui veulent nous dire que ils avaient bidonné leur CV et puis que ça a marché, pourquoi pas? Ils pourraient même être anonymes, s'ils le souhaitent.
Absolument. 32-10, merci beaucoup. Alors, lourde actualité pour vous, Jean d'Ormesson aussi. D'abord, j'ai vu que vous aviez enregistré l'émission de notre ami Marc-Olivier Fogiel, Le Divan. J'espère que ça va passer bientôt. Oui, vous avez aimé cette émission?
Eh bien, je suis arrivé, je dois vous dire, avec des semelles de plomb.
Oui. Ce qui n'est pas facile pour s'allonger, évidemment.
Oh, non, pas facile pour s'allonger, mais je suis un peu hostile à la psychanalyse. Vous savez, je suis un peu de l'avis, je vous dis, Alain, qui disait « J'ai quitté mon psychanalyste quand j'ai compris qu'il était guéri. » Et l'émission était formidable. Oui.
Vous n'avez pas attendu trop longtemps?
J'ai eu beaucoup de la voir. Je ne sais pas quand elle passe.
Et rappelez-vous que madame votre mère vous disait « Ne parle pas de toi voilà. ». Et, oui, et là, franchement, vous avez fauté encore une fois. Et puis, il y a des répétitions parce que la semaine prochaine, le 28, vous avez beaucoup fait pour que Alain Finkielkraut, le philosophe, puisse entrer à l'Académie française. Oui. Vous êtes en quelque sorte l'un de ses parrains?
Oui, je suis parrain de ça. Il est reçu par Olivier Laurent. Oui. Et dans quelques minutes, je vais écouter le...
Il va répéter son discours.
La répétition du discours. Dans une demi-heure,
Bien.
Et la représentation, la première, ce sera le 28.
Ah bah je crois qu'il y aura du beau monde.
Il y aura du beau
monde. Ça va être très amusant. Du beau linge, absolument. Alors là, j'ai une question imposée à poser. Ce n'est pas moi qui l'ai écrite, mais je vous la soumets.
La question imposée.
Voilà. Alors, il faut la lire en même temps.
De qui vous sentez-vous le plus proche? De Giscard, pour qui vous avez voté, ou de Mitterrand, pour qui vous n'avez pas voté? En effet, c'est une question qui peut se poser. Je n'avais pas voté pour Mitterrand. Je crois que Vous avez parlé tout à l'heure de ce fameux petit déjeuner. Je me suis beaucoup demandé pourquoi il m'avait invité.
Oui.
On avait posé la question à Roger Hanin, qui était le beau-frère. Vous vous rappelez de...
Oui. Et qui n'était pas le confident du président.
Voilà. Et il avait dit à la radio ou à la télévision, en public, il avait dit « J'ai bien connu François, mon beau-frère. » Je crois qu'il aimait s'amuser et pour sa dernière demi-heure et ses dernières heures comme président de la République, il a choisi le plus con. C'était moi.
C'était pas très flatteur.
C'était une hypothèse. Oui. Donc j'étais lié avec Mitterrand et j'avais... Benamou vient d'écrire un livre.
Jean-Marc Benamou.
Il m'a dit, Jean-Marc Benamou, je peux vous dire pourquoi il vous a choisi. Il avait beaucoup aimé un article de vous où j'avais dit ceux qui aimaient Mitterrand en 1981 l'aiment moins en 1995. Ceux qui détestaient Mitterrand en 1981 le déteste moins en 1995. Je ne fais pas partie de ceux qui aimaient Mitterrand. Ce qui voulait dire que je ne le détestais plus. Donc j'ai été assez lié. C'est encore un de mes défauts, ou une qualité, je ne sais pas. C'est que je suis souvent lié avec mes adversaires. Alors, celui dont je me sens le plus proche, c'est évidemment Giscard, qui est un homme évidemment très intelligent.
Bien sûr, vous avez fait entrer
et avec lequel on a peut-être été un peu injuste.
Oui.
Est-ce que le fond de l'affaire n'est pas votre grande indifférence aux gens et aux choses, finalement?
Oh, madame, vous mettez le doigt sur un de mes secrets que je laisse deviner dans mon livre, mais là je ne parle pas beaucoup. J'ai beaucoup lutté contre l'indifférence. En réalité, c'est un grand défaut. Les choses me sont un peu égales. Et je me rappelle qu'il y avait une discussion à l'Académie sur, je ne sais plus quel sujet, ça n'avait aucune importance. Et Pagnol, que j'aimais beaucoup, qui était très intelligent, s'est penché vers moi et m'a dit « L'important, c'est de s'en foutre. » Voilà. Eh bien, je me suis beaucoup... C'était une tentation très forte. À quoi bon ? À quoi bon faire tout ça ? Tout ça, c'est un peu inutile.
Et ça nous ramène à Édouard Baird. C'était l'un de ses films, À quoi bon ?
Oui, eh oui.
Absolument. On va marquer une petite pause et retrouver Patrice Carmoz qui veut nous faire chanter ou jouer.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern,
à la bonne heure,
sur RTL.
Et nous sommes toujours avec Jean Dormesson. Patrice, est-ce qu'on a le temps de faire un petit quiz ?
On a un petit peu de temps, oui. Quelques chansons qui donnent des indications sur la vie de Jean Dormesson, par exemple. Alors, tiens, c'est vous qui allez deviner ça. Qu'est-ce qu'on chantait au moment à peu près où il est né ? On écoute.
Est-ce qu'on devine ce que c'était ? Mais... C'est une version plus récente, ça, mais enfin.
Oh, honey,
non. Ah oui, Chick-a-Chick, non, c'est...
Two for me.
L'anglais, c'est pas ma langue, vous savez.
Ah bon ? Ah, Joël. Joël, ça, c'est ce qu'on chantait dans les années 37, vous étiez encore avec votre père.
Ah, je sais, moi. Je rêve d'avoir un bon copain.
Mais c'était pas à vous de répondre.
C'est Tintin,
Joël.
Le colonel était dans la finance.
Donc c'est déjà...
J'étais pas né.
Ah bon? Bah on connaît Maurice Chevalier.
Maurice Chevalier.
Oui.
Était dans l'assurance.
Ah.
Et le lieutenant.
C'est une chanson de Scotto.
Oui, mais alors c'est une chanson qui montre comment on a perdu à peu près la guerre.
Ah, ça fait des bons français, tout ça, ça fait des bons français.
Français.
Ah oui, excellent.
Eh bien, c'est moi qui récupère le point de jeu.
Voilà. Régis, alors ça, c'est ce qu'on chante 44, vous rentrez à Normal Sup. Et alors, c'est là, évidemment, un peu la libération.
Mon épicier l'avait gardé dans son
endroit. Ah oui.
Le percepteur l'a conservé en son miroir. La fleur si belle.
La fleur.
De notre espoir.
Oui. Moi, je connais.
Fleur de Paris.
Fleur de Paris, oui, très bien.
de Paris.
Alors je le dis pour ceux qui nous écoutent, qui nous prennent encore de route, non, c'est pas Radio Paris. Hein.
Non, mais là, c'est la libération. Hein, oui, ça,
ça, en 44, voilà. Non, en 44. RTL, une en 2016. Voilà,
vous êtes bien mais sur RTL, une petite coupe collective sera organisée, place de la République. Mesdames, amenez vos cheveux, il n'y en aura plus.
Le président du conseil. Alors 49, l'agrégation de philo. Eric.
Ah bah, c'est facile ça.
C'est Piaf. Piaf.
Oui, c'est Piaf.
Le ciel bleu.
C'est l'hymne à l'amour ou...
L'hymne à l'amour.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre...
Vous venez 56 le... 56. 56, le premier roman de Jean d'Ormesson, L'amour est un plaisir, et non, on chante ça.
Ben, j'ai à peu près la même heure que toi. Ben, alors, il est
c'est
ça.
Aventura.
Non.
Il est peut-être amoureux.
Alors,
il y a comment... quelqu'un dans la maison qui porte le même nom, allez.
Ah, qui est son fils d'ailleurs.
Ah, Gilbert Bécaud, oui.
Dis-moi.
Ah oui, ah, voilà, Gilbert Bécaud.
Comment c'est arrivé?
Je n'aurais pas reconnu un seul.
Alors là, vous allez peut-être reconnaître
un dernier.
En 73, quand vous entrez à l'Académie, Joël, ça vous allez reconnaître évidemment.
Ah, je sais. Ah oui, parole. Dalida et Alain Delon.
Ouais.
C'est étrange.
Ah oui, parole.
C'était vous avec Delon.
Ah, ça me rappelle le programme électoral de François Hollande.
Merci Régis.
Et d'autres.
Vous écoutez RTL.
11h-12h30,
à la bonne heure,
Stéphane Bern sur RTL.
Et nous recevons ce matin toujours Jean d'Ormesson de l'Académie française. Alors, il y a une chose quand même, c'est la première fois, parce que je vous lis attentivement depuis de longues années, cher Jean d'Ormesson. Vous parlez, évidemment, vous rendez, je crois que c'est la première fois que vous rendez un bel hommage à votre épouse, Françoise, mais aussi vous parlez des autres femmes. Et vous confessez pour la première fois, vous dites oui, j'ai beaucoup aimé les femmes, voilà, vous les avez aimées. Enfin, je ne sais pas comment vous le dire.
Est-ce que vous ne les avez pas plus aimées qu'elles ne vous ont aimées?
Ah bah, ça c'est méchant.
Mais je me demande, moi.
Je vois bien que vous êtes embarrassé.
Oui.
Parce que j'ai écrit là-dessus.
Oui.
Mais je n'en parle pas.
Oui. Et vous dites, il y a des...
Peut-être ce que vous dites est juste. J'ai beaucoup aimé les femmes. Elles m'ont quitté très, très allègrement. Vous savez, elles passaient leur temps à me quitter.
Il y a eu du chagrin?
Pardon?
Y a-t-il eu du chagrin?
Oui, bien sûr. Mais enfin, le chagrin se mêle toujours à la gaieté, vous savez. C'est la philosophie. La philosophie, c'est la même chose. J'ai aimé beaucoup la philosophie et elle ne m'a pas tellement aimé. C'est vrai? J'ai une passion pour la philosophie. J'aurais peut-être été un assez bon professeur de philosophie, mais je n'aurais sûrement pas été un grand philosophe.
Il y a ce que dit, alors quand Guilhem, devant qui vous passez l'oral, c'est formidable, qui vous dit, c'est très bien ce que vous avez dit sur votre sujet, mais on a toujours l'impression que vous parlez avec une tasse de thé à la main.
Ça m'a poursuivi.
Oui,
ça m'a poursuivi. C'est pour ça que j'ai écrit quelques livres très ennuyeux.
Alors, un dernier mot quand même. Vous écrivez en vous adressant à Dieu, avec cette modestie qu'on vous connaît, qui fait votre charme. Je n'ai pas fait grand-chose de ce temps que vous m'avez prêté avant de le reprendre. À côté de quoi est-ce que vous avez le sentiment, jusqu'à aujourd'hui, mais les choses peuvent encore changer, vous avez eu le sentiment d'être passé? Vous êtes passé à côté de certaines choses?
Bah écoutez, évidemment, je suis entré dans la Pléiade. Je dois beaucoup à Antoine Gallimard qui m'a fait entrer dans la Pléiade. Quand je suis arrivé, il m'a dit... vous savez, il n'y a pas beaucoup d'auteurs vivants qui rentrent dans la Pléiade. Il a réfléchi un instant, il a dit « Quelques-uns sont morts pendant qu'on préparait leur cours. » enfin, ça, ce sort cruel m'a été épargné. Mais les gens qui sont rentrés vivants dans la Pléiade, c'est Malraux, Gide, Yourcenar. Alors, évidemment, on me dit « Vous êtes modeste ». Bien sûr, je suis modeste. Je ne me compare pas à Chateaubriand, ni même à Gide, ni même à Ionesco, qui était quand même de magnifiques écrivains.
Vous aimeriez, dans quelques décennies, entrer au Panthéon?
Ah, je m'en fous complètement. On me mettra bien où on veut.
On ressortira cette bande alors, à ce moment-là.
Le Panthéon, non.
Vous savez quel est le Panthéon dont je rêve? Le Panthéon dont je rêve, c'est vrai, c'est le cœur ou l'esprit d'une jeune fille ou d'un jeune homme dans 30 ans, ça, dans 40 ans. C'est vrai, je suis très content quand mes livres se vendent. Vous savez, je consulte comme tout le monde la liste des best-sellers. Mais je vous assure que ça m'est égal. Ce que je voudrais, c'est pas avoir 300 000 lecteurs aujourd'hui, mais en avoir 30 000 en avoir 3 000 dans 30 ans.
On marque une pause, à tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Les questions rafales d'à la bonne heure.
Alors, je vois que Jean d'Ormesson est en pleine conversation avec Joël Goran. J'ai crois, surtout
vice versa.
J'ai juste le temps de vous remercier, cher Jean. C'est toujours une joie. J'ai toujours envie de vous inciter à écrire davantage pour avoir le plaisir de vous voir plus souvent.
Ah oui, de toute façon, je reviens la semaine prochaine.
Vous êtes toujours le bienvenu.
En tout cas,
je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Par chance, elle se poursuit et on vous laisse très longue pour nous offrir de si beaux livres qui, au fond, je le dis très sincèrement, nous aident à vivre. Parce que vous ne cachez pas que c'est une tragédie aussi, la vie, mais qu'il faut prendre les choses avec un peu de légèreté.
Oui, je crois que la vie est un désastre et une fête.
Et voilà. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci Stéphane.
J'en profite pour vous dire que demain, nous serons en compagnie de Philippe Lelouch. On va parler d'une pièce. Si c'était à refaire, il ne faut pas avoir de regrets, mais c'est vrai qu'on en rêve de pouvoir tout refaire dans notre vie. Merci à tous de nous avoir suivis. RTL, il est 12h30.
Vous écoutez RTL.